Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
Que faisiez-vous lorsque vous avez appris la nouvelle de l'attentat contre Charlie Hebdo ?
Oui, je l'ai appris dans l'après-midi et évidemment, je connaissais certains d'entre eux. C'était un attentat très sanglant, je le rappelle. 8 morts, journalistes, 3 personnes qui travaillaient là, parmi lesquelles il y avait une mémoire de policiers, en tout cas 11 personnes en tout. L'abomination commise sans froid. Et puis, quand ça touche certains que vous connaissez, évidemment, la relation personnelle, caractère affectif, joue. Et
qui étaient vos amis à Charlie, Robert Badinter ?
Cabu, indiscutablement, et puis Volinsky aussi. Mais au-delà même de ce sentiment personnel, vous mesurez la gravité de ce que ça signifiait. 11 personnes abattues en plein Paris, un attentat préparé de longue date par des fanatiques, réalisé de sang-froid, des hommes et une femme abattus là, sauf être insensible, comment n'être pas ému, et je dis, dans mon cas, en pensant en particulier à Cabu.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? On a appris très rapidement que c'était des djihadistes qui avaient perpétré cet attentat. Votre réaction, Robert Badinter ?
Oh, je n'ai pas été surpris par la personnalité des auteurs de l'attentat. C'est l'attentat lui-même qui m'avait stupéfié en plein Paris et des années après la publication par Charlie Hebdo des caricatures. La caricature de Mahomet, peu à peu, du temps avait joué. On avait un peu oublié les menaces, même si il y avait encore garde du corps pour certains d'entre eux. On avait oublié. Et donc ça émergeait d'un seul coup, avec une violence inouïe, et c'est ce qui a créé l'émotion. J'ajoute que c'était à la fois un assassinat délibéré, commis de sang-froid, prémédité, et en même temps, au-delà de la personne de ces journalistes, et encore une fois, des amis parmi eux, il y avait l'atteinte majeure, mes yeux, mais aux yeux de tous, contre la liberté de la presse. Ça n'était pas, comme on l'a vu dans certains régimes à certaines époques, vous savez, des journaux brûlés, jetés, incendiés, etc., des livres. Non, là c'était eux, leur personne et leur vie. Une rédaction tout entière, en tout cas, en grande partie, abattu. Alors je crois qu'à ce titre, dans l'histoire si douloureuse des actions poursuivies contre les journalistes, l'attentat de Charlie demeure un exemple effrayant de, disons-le, de violence, à mes yeux, et je pense aux yeux de presque tous, vraiment criminelle, contre des hommes qui exerçaient librement leur droit d'expression et des fanatiques qui ne le supportaient pas. À ce titre, je pense que l'émotion intense qu'a parcouru bien au-delà de nos frontières, qu'a couru dans les démocraties, se justifie pleinement, s'explique.
Fanatique précisé, Robin Badinter, ce que vous voulez dire par là.
Vous avez l'acte fanatique. Vous avez, en effet, des hommes qui se croient porteurs d'un message de Dieu. Et au nom de ce message divin, ils tuent. Ils tuent les autres. Ils se réservent ce que je refuse pour ma part à tout homme et à toute société, le droit de vie et de mort sur les êtres humains vivants. Là était le premier, je dirais le pire des outrages, indépendamment de ce qui demeure lié à ces crimes, c'est-à-dire le malheur des familles, de ceux qui les aiment. Mais c'est des vies qu'on supprime. Et puis s'y ajoutait, mais ça demeure, je préfère dire s'y ajoute, le caractère totalitaire du crime. Au nom de ma vérité, de ma conviction, je vous interdis de vivre. Je vous interdis d'écrire. Vous ne devez plus être. Et je vous tue. Je vous fais disparaître. Donc, vous avez là l'outrage. Le terme est presque insuffisant. L'atteinte première à la liberté qu'a chacun d'exprimer ses convictions.
J'ai entre les mains le livre que vous avez consacré à votre grand-mère Idis, laquelle était juive, laquelle a été persécutée en tant que telle, d'abord en Bessarabie où elle est née, et puis en France. Or, si je vous dis ça, c'est parce que l'attentat contre Charlie Hebdo a été aussi suivi d'un attentat contre un supermarché cachère, attentat perpétré et donc avec un motif antisémite évident. Et là aussi, j'aimerais avoir votre réaction, Robert Badinter. Ça n'était pas évidemment le premier attentat antisémite commis en France. Ça n'est pas non plus, hélas, le dernier. Qu'en pensez-vous ?
Mais, moi, vous savez, je pense que tuer un être humain à cause de sa religion ou de son origine est en soi un crime atroce. Atroce parce que c'est une qualité inhérente, c'est pas au regard de l'action qu'il a commise. L'expression la plus barbare de ce racisme-là ou de cet antisémitisme-là, c'est l'enfant qu'on jette dans la chambre à gaz après l'avoir transporté d'Europe. C'est arrivé de chez nous aussi, jusqu'à Auschwitz. Prendre l'enfant et l'assassiner de sang-froid pour des raisons idéologiques, racistes comme celle-là, c'est le dernier degré de la barbarie humaine, un enfant. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que à Toulouse, dans le collège...
Le collège Ozar Hatorah, où Mohamed Merah, pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, a tué un enfant juif parce qu'il était juif.
Oui, mais on sait, nous savons, que Mohamed Merah avait pris une caméra qu'il avait fixée sur sa poitrine. Et au moment où il est allé tuer les enfants juifs, et en particulier la petite fille, 8 ans, il l'a prise par les cheveux, il l'a abattu de sang-froid à bout portant. Je ne sais pas si on mesure le degré de barbarie qu'il faut pour abattre un enfant, quel qu'il soit. Et parce qu'elle était juive, il la tuait, exactement comme les hommes des Einsatzgruppen nazis. C'est ça la barbarie, c'est ça l'expression même de la barbarie. Alors, qu'elle s'applique aux uns ou aux autres, c'est toujours l'expression de la barbarie quand vous dites « parce que tu es né comme ça, je te tue ». On ne peut pas aller plus loin dans la dégradation humaine.
Robert Badinter, quand vous voyez les manifestations d'antisémitisme en France, aux États-Unis. Il y a eu plusieurs attentats antisémites aux États-Unis. Est-ce que vous dites tout cela pourrait recommencer d'une manière ou d'une autre ?
Je regarde, j'écoute. Longtemps, j'ai refusé de penser que l'antisémitisme, après le génocide juif en Europe, des nazis, et particulièrement de Hitler, voulu par Hitler, entraînait la disparition de millions d'êtres humains qui n'avaient que le tort d'être nés juifs. J'ai pensé que c'était terminé. Je crains de m'être trompé. Je suis maintenant un vieil homme et je regarde, conserver heureusement une très bonne mémoire. L'unique avantage de l'âge, quand vous avez conservé la mémoire, c'est vous donner une longue perspective, une rétrospective. Mais ça ouvre aisément des voies sur la perspective. Donc, je peux mesurer ce retour de l'antisémitisme. Je n'aurais pas cru possible. Alors, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec un système entier fait pour génocider des millions d'êtres humains. Mais on a d'autres signes. Et j'ai vu ça, j'avais vu les premiers, un jour, au Caire, en me promenant dans le bazar avec un ami, un collègue universitaire, très voyant, égyptien. Et dans le bazar, là, j'ai ciblé, pointé et acheté un exemplaire du protocole des Serges de Sion en arabe. Et je me suis dit, comment ce faux, car on sait que c'est un faux, c'est une vérité historique, fabriqué par la police tsariste pour augmenter, accroître l'antisémitisme brutal qui régnait dans cet empire. Le protocole des Sages de Sion, qui a été récupéré par Goebbels, qui, bien entendu, l'a modernisé, l'a répandu largement, et bien maintenant on le vend dans une édition arabe au marché du Caire. Et mais hélas, c'est dire que vous avez à la fois une réviviscence de l'antisémitisme, à ma stupéfaction, car je ne croyais pas ça possible.
Il y a une scène où vous vous mettez en colère parce que le nom de Mitterrand est sifflé.
Non. Non, c'est une erreur historique liée au montage. Vous parlez de la scène, de l'enregistrement fait, au moment de la commémoration du Veldiv, la
Absolument.
Première.
On vous voit vous mettre en colère.
Ah oui, mais je l'étais. Mais pas du tout, parce qu'il y avait eu des clameurs concernant Mitterrand venant de la part de l'extrême droite. Ils n'en viennent pas du tout.
Alors,
si vous aviez vu, immédiatement avant, qu'on arrive Mitterrand, président d'une république laïque, ne peut pas aller à une cérémonie religieuse. Moi, j'y étais. Et j'avais dit à Mitterrand, je souhaite prendre la parole. Vous voulez, Robert ? Pourquoi pas ? J'étais président du Conseil constitutionnel. On avait entendu le récit d'une survivante qui était petite fille, 10-11 ans, et qui avait été arrêtée par la police, mise au Veldiv, envoyée à Beaune-la-Rolande, ramenée à Drancy et livrée aux Allemands, et qui était partie au Auschwitz. Grand moment d'émotion. Et à ce moment-là, la cérémonie religieuse étant terminée, Mitterrand arrive. Et les militants d'extrême droite pro-israélienne de la communauté juive hurlent à mort Mitterrand. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça a été. Pas pour Mitterrand. Mitterrand, c'était un rhinocéros des réunions publiques. Moi, j'en avais fait des dizaines avec lui. Salaud, ordure. Oh, ça glissait, il s'en foutait complètement. Mais moi, et là, contre Ovides. Là, c'est Ilis qui m'avait dit, quand j'étais petit garçon, toujours, fais attention, quand on parle des morts, sache qui vous écoute. Quand on parle des morts, sache qui vous écoute. Mais que les Juifs osent, parce que c'était des Juifs, faire un meeting politique à propos de ce qui avait été, il faut bien le dire, une ignominie, ah, ça m'a mis hors de moi. Mais ça m'a mis hors de moi par rapport à Edith, pas par rapport à Mitterrand, parce que je savais que Mitterrand, c'est quoi ? C'est le récit par cette femme et la prière des morts qui ont fait revenir chez moi des ce que Edith y avait instillé lentement dans l'enfance. Quand même, et puis, vous savez, ça ne m'est pas indifférent. À la fin d'Idis, je donne la longue liste des ceux des miens qui ont disparu. Et quand même, vous savez, je vais vous raconter une anecdote affreuse que j'ai apprise après la guerre. Ma deuxième grand-mère, celle du côté de mon père, avait 80 ans. Elle était très malade. Elle était apatride. Et Bousquet avait promis aux Allemands de leur livrer les Juifs apatrides. On avait la liste. Et on est venu l'arrêter. Et après la guerre, à la fin de l'occupation, je suis revenu à Paris, j'ai été voir la concierge de l'immeuble très populaire où elle habitait. Et j'ai dit, on a arrêté ma grand-mère. Elle m'a dit, ah oui, oui. Et alors elle m'a raconté. Scène inouïe, qu'elle était très malade à cette époque-là, très malade, au lit. Il est venu quatre gendarmes, gardes mobiles, ils ont vu, elle poussait évidemment des cris, pleurait. On avait collé sa fille, ma tante, là-bas, dans une autre pièce. Puis finalement, ils l'ont embarqué. Il y avait là un milicien volontaire, du style Lucien Lacombe, vous savez, un jeune voyou, nazi. Alors ils ont commencé à descendre l'escalier, il n'y a pas d'ascenseur, les quatre gardes portant la civière, ma grand-mère hurlant dessus, et le milicien derrière. Et alors, immeuble populaire, il faudrait pas. Ah, oh, salaud, vous voulez pas que c'est une vieille femme, laissez-la tranquille, etc. Voulez-vous laisser. Et le milicien est sorti, m'a raconté la concierge, son revolver, et a dit, ça suffit, ça fera jamais qu'une youpine de moins. Et le premier qui continue, je lui brûle la gueule. Et dans un silence de mort, ils ont continué à descendre. On l'a mise dans le car, elle est allée tout droit à Drancy. À Drancy, la nuit même, elle a été jetée dans le train et elle est morte dans le train. Ce qui est très au-delà de Idès. Et je suis contente pour Idès qu'elle soit morte autrement que comme ça. Alors, vous comprenez, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la barbarie que ce jeune homme ? Vous retrouvez Mérad, tuer un enfant. Jeter une femme mourante dans un camp de concentration pour destination, c'est la même barbarie. Et ça vaut pour tout. Pour toutes les formes de racisme, toutes les formes de xénophobie, toutes les formes d'intolérance, pour tout. Et on retrouve là Charlie Hebdo, la boucle est bouclée.
Merci beaucoup, Robert Badinter, de nous avoir accordé de votre temps. Idis, votre ouvrage publié chez Fayard.
Merci.